la parole au peuple d'Afrique.
Le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo.
Bienvenue dans le journal des auditeurs, auditeurs d'Afrique, d'ici et d'ailleurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Au sommaire de cette édition du journal des auditeurs, deux pays, deux énigmes politiques et économiques. Plein feu aujourd'hui sur le Rwanda et le Burkina Faso. Bilan des années post-génocide au pays des mille collines au lendemain d'une élection présidentielle, c'était hier. Et décryptage des années Blaise Compaoré au pays des hommes intègres. Pour en parler avec nous aujourd'hui, notre consultant sera Monsieur Yves Ekwe Amaizo, homme politique togolais, économiste, spécialiste en stratégie, conseil et négociation à l'ONUDI, expert indépendant également et président du groupe de réflexion Afrologie. Yves Ekwe Amaizo, bonjour.
Bonjour, je suis bien content de vous avoir en antenne.
Ben, nous aussi, hein, merci beaucoup d'être avec nous. Et avant de vous retrouver pour parler du Burkina Faso, du Rwanda et puis peut-être aussi d'autres sujets, voici un tour d'horizon des autres sujets qui ont retenu l'attention des auditeurs. Nous écoutons les répondeurs du JDA.
La parole au peuple d'Afrique.
L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et au Rwanda. Et la théorie de l'allégeance. Les intellectuels africains donnent l'impression de ne rien comprendre à ce qui se passe à l'Afrique parce qu'ils regardent l'Afrique avec des lunettes européennes. Expliquons-nous, c'est le cas aujourd'hui lors des élections présidentielles. Les conditions démocratiques sont catastrophiques en Côte d'Ivoire et ne sont pas réunies. Les conditions démocratiques ne le sont pas non plus réunies en Rwanda. Or, Kagame déclare devoir instaurer une démocratie à l'africaine. Il faut, je crois, regarder de très près ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les politiques, et non pas les intellectuels, les politiques, eux, ont compris qu'ils peuvent organiser les élections à la manière africaine. La manière africaine est bien celle qui a démarré dans certains pays comme le Togo, comme le Gabon, avec un modèle politique occidental, mais un mécanisme sociologique à l'Afrique. C'est l'élection dynastique, premièrement. Deuxièmement, on note que les élections présidentielles en Afrique, en Côte d'Ivoire comme Rwanda, reposent sur un modèle de type tribal. Il faut l'accepter de type tribal. Tribal où le président de la République a d'abord un premier cercle, le cercle de sa tribu, veut maintenir le pouvoir, un deuxième cercle d'alliance, et un troisième cercle, le cercle des obligés, ce qui permet de définir une théorie de la légende, une théorie de la domination. Pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi parce que il semble que les politiques africains ont parfaitement compris qu'ils doivent préserver d'abord les intérêts des Occidentaux et que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils tripatouillent les constitutions, ce tripatouillage est absolument accepté par l'Occident qui, ici ou là, montre un désaccord, mais accepte néanmoins.
En tant que défenseur de la paix et de la démocratie, malgré les manèges qui se passe au Congo-Brazzaville, dont nous sommes au courant dans la capitale coloniale, d'inverser le pouvoir, de renverser le pouvoir en place et de mettre quelqu'un choisi par l'obédience d'une certaine loge qui nous a suscité tant de problèmes, tout en promettant des marchés aux girons français. Nous devons comprendre, nous avons fait des élections, ça fait pas longtemps, ça nous a coûté cher financièrement et dans le recensement. Les gens auraient dû s'entendre, si vous voulez faire partir Sassou Nguesso, de faire bloc ensemble et d'aller vraiment aux élections, que de faire une dispersion, de chercher à ce qu'il y ait un mouvement de révolte pour le faire partir, qui entraînerait une décadence du pays économiquement et l'embrasement du pays. Si vous ne voulez pas de lui, laissez-lui faire 3 ans et préparer dans les 3 ans les futures élections. C'est inutile de faire croire qu'on peut démettre un président, tandis que nous sommes dans un état démocratique, avec un président démocratiquement élu, pour remettre un roi télé qui ne sera pas avalidé par le peuple. Sous peine par l'agitation, le peuple a besoin de lui. C'est pas le peuple qui a besoin de lui. C'est une certaine jeunesse aveuglée, remplie de plein de promesses, dont aucun on a fait des usines, des unités de transformation, des écoles technologiques, dans certains apprentissages aux métiers à venir, qui se disent, s'il passe, nous aurons ceci par le biais de la France. La France ne peut pas nous accueillir tous, soyons logiques.
01 55 07 58 05 ou 00 33 1 55 07 58 05 si vous appelez d'Afrique ou d'ailleurs.
Cette émission est la vôtre, c'est votre espace d'expression. Vous pouvez nous appeler, téléphonez-nous au 01 55 07 58 00. Depuis l'extérieur, depuis l'Afrique notamment, c'est le 00 33 1 55 07 58 00. D'abord le Rwanda, donc Yves Ekwe-Amahizo, merci d'être avec nous. Vous savez donc que les Rwandais étaient hier aux urnes pour élire le président. Et le président sortant, Paul Kagame, n'a pas attendu la fermeture des bureaux de vote pour déjà fêter sa victoire. C'était hier, hein, dans un grand stade, il y a 25 000 personnes, c'était la grande festivité. Quelle réflexion vous inspire cette opération électorale sans véritable compétition?
Écoutez, la première réflexion, elle est toute simple. C'est que l'Afrique est en train d'avoir ou de subir, selon la position qu'on choisit, des nouvelles formes de démocratie en post-colonie. Je m'explique. L'élection qui a eu lieu au Rwanda, que vous venez de décrire, est une démocratie palliative. Elle est légitimée par les pays occidentaux,
oui,
soit des donateurs, soit des gens qui ont besoin du Rwanda pour accéder à un certain nombre de minerais dans les pays voisins. Dans tous les cas de figure, ça permet, dans un certain point de vue, de préserver des intérêts occidentaux.
Vous appelez ça une démocratie palliative?
Palliative parce qu'elle prend les formes qui ressemblent à celles d'une démocratie. Par exemple, vous avez des élections, vous avez beaucoup de femmes au Parlement, etc. Et puis en même temps, ben, vous n'avez quasiment pas d'opposition. Ceux qui sont là, on les connaît, avaient travaillé déjà avec le président actuel, et donc c'est palliatif. Donc
démocratie, c'est pas des opposants réels. Une démocratie Canada Dry, quoi, en somme.
Disons, je préfère le mot technique palliatif,
parce bien
que
sûr,
le mot
c'est
dit
plus
ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on fait semblant de faire, tout en donnant les possibilités pour ceux qui savent que ce n'est pas bien de le justifier.
Yves Ekwe, est-ce que vous pouvez éteindre votre radio ou Internet, s'il vous plaît, parce que nous avons un écho dans le casque.
Un écho, bah là, je ne sais pas du tout. C'est peut-être une lumière, ça va mieux?
Oui, c'est bien.
Voilà, c'est une lumière.
Oui.
Voilà, alors la deuxième chose très importante, c'est que pour que ceci fonctionne, cette démocratie palliative, il faut nécessairement avoir aussi des gens dont les visions pour les pays soient généralement pas toujours celles qui intéressent les populations. On viendra là-dessus un peu plus tard. Oui. Et la troisième chose, c'est que très très souvent, d'une manière directe ou indirecte, le régime doit être autoritaire. Autoritaire éclairé dans le cas du Rwanda qui nous concerne, on en parlera tout à l'heure pour le Burkina ou d'autres pays,
oui,
mais de toutes les façons, il faut que ce soit légitimé par l'extérieur.
C'est
alors
ça.
La réalité de cette démocratie, en fait, ça n'en est plus une, c'est plutôt un plébiscite. Un plébiscite dans lequel vous n'avez pas véritablement d'opposition,
oui,
et qu'en fait, si on a par hasard et par chance un début de développement au service des populations que un certain nombre de statistiques économiques peuvent démontrer, alors c'est encore plus facile pour légitimer ce régime autoritaire. Soit dit en passant, voici un État qui en fait a dit non à la France, qui est en train de mettre en place tout un État fort, plutôt anglophone,
oui,
mais qui a décidé de le faire à marche forcée. Et contrairement à ce que les gens ne savent pas, le développement accéléré, il n'y a que les gens de la Banque mondiale, du FMI qui ont dit ça. Ça n'existe pas. Chaque pays avance selon sa culture et son rythme. Donc tout ce qui va être à marche forcée veut dire fondamentalement qu'on revient à des processus d'obligation. Et les populations ne suivent pas.
Bien
la
sûr.
Réalité, c'est que ça crée des asymétries dans la création de richesses.
Oui.
Et si vous voyez le sommet de l'État, bien que le Rwanda aujourd'hui est le pays où il y a le moins de corruption dans la sous-région, oui, il n'empêche qu'il y a le niveau de corruption est quand même là, parce que ça veut dire que les contrats se font et sont donnés souvent par relation,
oui,
et que généralement, si on peut organiser le côté contractuel uniquement par les relations, ça veut dire simplement qu'il n'y a pas des appels d'offres de manière les plus démocratiques possibles.
Pourtant, on signale que le Burkina Faso, le Rwanda aurait cette année 6% de taux de croissance et que il s'agit du pays le moins corrompu d'Afrique centrale.
Non, je confirme parfaitement les chiffres que vous venez de dire. Moi, je vous en donnais d'autres. Et regardez, vous savez, on parle du cinquantenaire. Il faut être précis. Le Rwanda, par exemple, d'après moi, les chiffres que j'ai pu obtenir, entre les années 50 et 2000 à peu près, donc 50 ans après, mais écoutez, a pu réussir à augmenter en gros une fois et demi sa capacité de création de richesses pour les populations. Malheureusement, quand vous regardez la réalité en 2010, aujourd'hui, en fait, le Rwanda, pour ce qui est la distribution de manière plus équitable de l'ensemble de la population,
oui,
n'a pas bougé. On est à 351 à peu près dollars. Donc elle n'a pas bougé. Elle fait partie des pays qu'on appelle fragiles,
oui,
c'est-à-dire qu'il y a encore un certain nombre de difficultés. Mais c'est vrai que les chiffres que vous dites, 6%, certains disent 5,4%, bon, quelles que soient les bagarres de chiffres, ce qui est important, c'est de montrer qu'on n'arrive pas, malgré ce côté autoritaire, à ce que la distribution se fasse sur l'ensemble de la population, notamment dans les zones rurales.
C'est intéressant ce que vous dites.
Soit,
oui,
ces systèmes n'ont pas compris comment on crée de la richesse et en plus on l'organise de manière partagée, ce qui veut dire des emplois. soit une bonne partie de la population, je pense cette fois-ci maintenant, au Hutu, en laissant de côté leurs problèmes internes, pour dire, mais quand même, il y a 700 à 800 000 personnes qui sont jugées, condamnées, voire 1,5 million selon certaines statistiques,
oui.
Et donc, toutes ces personnes-là, entre guillemets, ne travaillent pas, et donc n'apportent, entre guillemets, pas de richesse pour ce pays-là. Donc peut-être faut réfléchir autrement, faut-il pas, même s'ils doivent être en prison, trouver un moyen de les faire travailler, et que cette richesse revienne renforcer le développement de ce pays-là. Donc vous voyez, ça pose un certain nombre de problèmes dans la façon de faire les arbitrages.
Mais alors finalement, alors, quand on met en avant les succès économiques du Rwanda, comment expliquer la complaisance persistante des institutions financières telles que le FMI et la Banque mondiale à l'égard de ce Rwanda qui déclare quand même, sans vergogne, disposer de ressources minières alors que chacun sait que son sol n'en produit pas?
Pour revenir à ce que vous appelez les institutions internationales et autres, il faut d'abord voir qui sont ceux qui sont assis dans le conseil d'administration et ceux qui prennent les décisions.
Oui.
70% ce sont les pays occidentaux, notamment de l'Ouest, et en prime abord généralement les États-Unis. Donc la première chose que ces institutions font, c'est légitimer ou soutenir les positions qui intéressent les intérêts des membres du conseil d'administration. Donc ça veut dire l'Union européenne essentiellement et les États-Unis éventuellement le Japon.
Oui.
Donc, quand vous avez ça, ces pays cherchent quoi? Ils cherchent fondamentalement à avoir des accès à des ressources, les matériels, si possible, tout ce qui n'est pas transformé.
Oui.
Et vous allez voir qu'ils sont très très durs dessus. Ils vont faire de l'extraction, tout ce qui n'est pas transformé, ce que j'appelle les capacités productives, voire l'industrialisation au sens beaucoup plus large du terme.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on peut trouver des partenaires, je dirais pas des sous-traitants parce que ce n'est pas vrai, mais des partenaires qui peuvent jouer ce jeu-là, surtout si ces partenaires, on peut les soutenir plus facilement militairement, bah, le tour est joué. Donc, les statistiques qui vous donnent qu'il y a des matières premières dans les statistiques du Rwanda,
oui.
Vous allez comprendre pourquoi. On a la même chose dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, je n'irai pas dans le détail ici. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, à partir du moment où eux, ils sont apprévisionnés comme ils le souhaitent et de manière régulière, écoutez, ils vont fermer les yeux sur tout le reste.
Mmh.
Donc, ça pose le problème de fond aujourd'hui de savoir, est-ce que le développement d'un pays doit se faire en mettant de côté la démocratie, c'est ce que Kagame est en train de nous montrer, et qu'on fait d'abord le développement et on verra plus tard ce qu'on pourrait appeler éventuellement une démocratie. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme de la démocratie à l'africaine,
oui.
Parce que c'est un terme inexact, il n'y a pas de démocratie à l'africaine,
bien
elles
sûr.
Sont toutes différentes. Ils ont par contre une seule chose en commun, c'est qu'elles sont systématiquement légitimées par les pays occidentaux.
Oui.
Donc les pays occidentaux essayent de faire en sorte qu'eux ne sont pour rien du tout, alors que ce sont les premiers à faire en sorte que la démocratie qui est appliquée dans leur propre pays ne s'applique pas dans les pays africains. Et de ce point de vue, ils sont complices, pour ne pas dire carrément partenaires, dans cette complicité-là. Donc il
ne
faut absolument
oui.
pas laisser tomber et laisser passer des mots pareils que j'entends souvent. Il s'agit bien de démocratie palliative parce que ça permet d'accéder à des ressources et à ce moment-là, bien sûr, d'accaparer les richesses des populations africaines.
C'est important ce que vous dites parce que concernant le Rwanda et d'ailleurs aussi le Burkina Faso dont nous allons parler dans quelques instants, il y a l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, a suggéré à un moment donné qu'il fallait soutenir des régimes autoritaires qui réussissent économiquement. On sait d'ailleurs le soutien sans faille des États-Unis pour le Rwanda ou même l'Ouganda et la sympathie des bailleurs de fonds à l'égard du Burkina Faso. Est-ce que ça ne désespère pas un peu, je veux dire, les démocrates, ce genre de postulat?
Démocrate. Encore une fois, l'OCDE est une structure qui est là pour faire finalement du think tank pour les pays occidentaux, essentiellement les plus riches. Et chaque fois que des pays émergents commencent à émerger justement et qu'ils voient qu'ils vont perdre le contrôle de ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils les intègrent. C'est comme ça que la Corée du Sud a été intégrée,
oui.
que l'Argentine a été intégrée, donc on attend les prochains. Donc, vous voyez même le G8, c'était G7, G8 et maintenant on a intégré même l'Afrique du Sud. Vous voyez comment ça fonctionne.
Oui.
Donc c'est par vase communicant ou par cercle concentrique où chaque fois que quelqu'un va échapper au système, la Chine, l'Inde ont dit non et jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent leur position qui, en fait, est originaire des années 55, le Bandung. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce que vous dites, c'est que pourquoi voulez-vous aller faire des analyses à partir des gens, au CDE ou d'autres, qui vont vous donner des éléments qui arrangent ou les intérêts de leurs propres, disons, décideurs.
De leur propre
Il faut
système.
Que l'Afrique puisse trouver ses propres structures pour aller mettre en valeur d'abord un certain nombre de statistiques. Souvent, on pourra tomber d'accord avec les pays occidentaux. Par contre, l'analyse prospective pour savoir dans quel sens il va falloir faire avancer, transformer des matières premières ou les faire au service des populations ou ouvrir ou non pas les marchés, à ce moment-là, ce sont des décisions qui doivent être internes. Et comme nous sommes des pays plutôt petits, ça ne peut pas se faire de manière individualisée. Il va falloir absolument aller vers cette intégration régionale de manière intelligente. Moi, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et deux, il faut surtout respecter la discipline. Parce que vous savez, quand vous avez des grands pays, Nigeria, Afrique du Sud et autres dans les zones, ces pays-là, généralement, quand ça les arrange pas, ils n'écoutent pas, tout simplement. La relation Chine-Afrique aujourd'hui, ça se fait entre les 3 ou 4, 5 grands.
Oui.
Et les restes, ils suivent quand ils peuvent. Donc, revenir à votre situation, il faut trouver des structures en interne qui non seulement fournissent donc les données, mais surtout les analyses dans l'intérêt des pays africains. C'est ce que j'appelle dans mes livres l'afrocentricité ou l'afrologie pour le site que je dirige.
Yves Kouamaïso, restez avec nous. Mais alors, on va écouter un auditeur en direct. Mais avant cela, dites-moi, mais quel regard vous portez finalement sur ce Rwanda post-génocide, où on a vu quand même, je veux dire, en quelques années, ce pays se reconstruire, hein, après avoir vécu cette tragédie ultime, cette tragédie suprême?
Non, mais le regard, il est très simple. C'est un pays qui, sur le plan du développement, est en train de faire une belle réussite. Regardez les derniers chiffres qui sont sur ce qu'on appelle, nous, les environnements des affaires. Voici un pays, en moins de 1 an et demi, a quasiment réussi pratiquement tous les critères qui étaient mis en place pour faciliter l'arrivée des bailleurs de fonds, les a modifiés, mais les a menés de manière autoritaire. Hein. Donc, ce sont des décisions qui viennent telles qu'on fonctionne au niveau de l'armée. Est-ce que cela est durable? C'est une question à poser. Est-ce que cela peut se faire une fois que ce régime n'est plus là? C'est une autre question à poser. Oui. Et est-ce que ça va attirer des investisseurs sérieux qui ont envie de rester longtemps? Voilà encore une troisième question à poser. Mais ce qu'il y a de sûr, pour une fois, je pense qu'on a quand même une vision qui est celle de ce que j'appelle aujourd'hui éclairé, autoritarisme, mais éclairé.
C'est ça.
Et donc à ce moment-là, bon, tant qu'on cet éclairement permet de créer des emplois, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, ça devrait aller. Mais sur le plan des chiffres, j'ai pas fini là-dessus, je vous rappelle que c'est un pays qui a beaucoup de déficits. Quand on regarde les chiffres au niveau déficit, pour prendre un gros Burkina Faso, c'est deux fois plus.
Oui.
Alors, on est à moins 15% de déficit budgétaire, ce qui est énorme. Vous voyez, la Grèce avec 11-12% est tombée par terre. Bien. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui sont derrière, qui sont en train de le soutenir. Et on espère, si on applique la politique du keynésianisme, que rapidement ces déficits ont été mis dans des domaines qui vont produire de l'argent. Je crois que c'est vrai dans ce sens, puisque le Rwanda, par exemple, a fait une expérience pilote qu'il faut féliciter pour aller chercher du gaz au niveau du lac Kivu.
Oui.
Et apparemment, ça a été concluant. Aujourd'hui, ils demandent à des investisseurs de venir, et je crois qu'il faut les soutenir dans ce cas-là. Ça veut dire que demain matin, le Rwanda sera indépendant en termes de fourniture d'énergie. Et s'ils peuvent multiplier par 3 ou 4, ils auront un approvisionnement total. Ils n'auront plus besoin de personne pour leur énergie. Au niveau du gaz.
D'accord.
Mais vous voyez ce que ça veut dire fondamentalement.
Oui.
Est-ce que tous les pays font ça de manière éclairée? C'est une question à poser. Et la deuxième, beaucoup plus grave, est-ce que ceci est durable? Parce que quand ce système changera demain matin, qui va venir derrière?
Parlant de déficit, il faut préciser effectivement que la bailleur de fonds internationaux finance près de la moitié du budget du Rwanda quand même.
Justement, vous le dire que en fait, si je vous ai donné des moins 15%, mais quand vous mettez maintenant l'aide au développement ou l'aide de ces bailleurs de fonds, vous tombez à des chiffres autour de 3, 4, 5% du déficit, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement pas grand chose de déficit. C'est ce qui trompe justement tout le monde. Il faut pouvoir voir votre capacité intrinsèque à gérer votre pays ou la capacité que vous avez à le gérer avec l'appui de ces bailleurs de fonds extérieurs qui ne sont pas neutres dans la façon dont vous lui donnez l'argent. Si vous donnez l'argent et qu'ils vous disent d'aller faire un petit tour dans le Congo voisin et de ramener des matières premières, je ne pense pas qu'on puisse dire non aussi facilement.
Alors, restez avec nous Yves Kouamaïso, restez avec nous, nous allons écouter un auditeur en direct, M. Aboubacar, oui, qui nous parle du Rwanda.
Oui, bonjour Monsieur Laloupo,
bonjour
à votre invité. Je voudrais faire une remarque, le Rwanda est un pays qui sort d'un génocide, celui de 94.
Oui, le Rwanda. Oui.
Qualifié comme tel. Mais je voudrais aussi faire remarquer que ce n'est pas la première fois que les Rwandais se tapaient dessus les uns les autres. Il y a eu deux ou trois précédents depuis les années 60. Alors, voilà un pays qui...
Oui, mais enfin, le génocide qu'on a connu quand même, je veux dire, oui. Celui-là, c'était quand même la tragédie extrême quand même. Hein.
Exactement, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, mais ce que je constate simplement, c'est que sous ce couvert de génocide, M. Kagame perpétue une dictature qui ne dit pas son nom. Il faut appeler un chat un chat. Et la preuve, il n'y a pas d'opposition. Puis il y a une opposition, c'est à l'extérieur, mais pas au Rwanda.
Oui.
Tous les compagnons de l'indépendance, entre guillemets, c'est-à-dire de l'arrivée de M. Kagame au pouvoir, je pense au pasteur Bizimungu qui croupit en prison, qui du jour au lendemain, un ou tout, qui du jour au lendemain, quand il a voulu se présenter à la présidentielle contre M. Kagame, a subi l'opprobre du régnant, qui est M. Kagame. Et bon, il réalise là un score à la soviétique, 93%, vous vous rendez compte?
Oui.
Et est-ce que les pays africains doivent faire un choix entre la croissance et la démocratie? Est-ce que la démocratie est un luxe pour nous par rapport aux pays occidentaux? Je ne le crois point. Je pense qu'on peut allier les deux, croissance et démocratie.
Oui.
L'Occident se donne bonne conscience en fermant les yeux sur les exactions que commet M. Kagame. La preuve, vous avez vu, il y a deux opposants, une opposante qui est en prison, deux qui se font assassiner, et j'en passe. L'Occident se donne bonne conscience sous prétexte que le Rwanda est bien géré, bien suivi des critères de bonne gouvernance, on ferme les yeux sur le reste. Je dis que c'est une bombe à retardement. Il faudrait que M. Kagame comprenne que du jour au lendemain, le pouvoir peut changer de main, oui, et qu'il mette de l'eau dans son vin et qu'il arrive à instiller une dose de démocratie dans les affaires du Rwanda. J'aime bien le terme de démocratie palliative démocratie utilisé palliative. Par votre invité.
Yves Ekwe Amaïzo, oui.
Oui, il a parfaitement raison. D'ailleurs, je fais un parallèle entre le Rwanda et Israël. Dans son unilatéralisme politique, ces deux pays, voilà, deux pays qui ont subi des génocides à des degrés divers et qui, partant de cette situation, peuvent tous se permettre.
Merci beaucoup. Merci, oui. M. Aboubakar. Bonne journée à vous et restez à l'écoute d'Africa numéro 1. Nous écoutons maintenant M. Touré en direct également.
Oui, bonjour, M. Alopo.
Bonjour.
En fait, je voulais poser une question à votre invité. En fait, j'aurais appris la semaine dernière que Idriss Déby a été nommé comme le meilleur président de l'Afrique. Je voulais savoir quels étaient les membres
qui
du jury.
Oui. Vous parlez de qui?
Idriss Déby.
Idriss Déby, d'accord.
Oui, qui a été le meilleur président de l'Afrique.
Élu par qui?
Je ne sais pas par ses compères, je voulais savoir par quels étaient les membres du jury, c'est quels critères ils l'ont nommé, je ne comprends plus quoi.
Ah ben écoutez, en tout cas moi vous apprenez cette information, hein. Et on va poser la question à Yves Ekwe Amaïzo, qui est au téléphone avec nous depuis Vienne. Yves Ekwe Amaïzo.
Oui, je vous réponds tout de suite. Oui. Ils disent que Brésil n'a été choisi par personne, si ce n'est pas des groupes que eux-mêmes ils ont certainement financés. La réalité, c'est qu'il y avait des critères qui étaient mis en place par Mo Ibrahim, qui donnait 5 millions de dollars à des chefs d'État qui quittaient librement le pouvoir. Oui. Et depuis 2-3 ans maintenant, il n'y a aucun chef d'État ne l'a reçu. Donc, si vous avez reçu ce genre d'information, il faut toujours nous donner la source exacte qu'on puisse aller vérifier. Mais moi, à ma connaissance, et je suis très très près des chefs d'État africains, M. Déby est loin d'arriver à cela. Au contraire, il y a d'autres problèmes sur lequel on ne va pas s'étendre actuellement.
Voilà. Monsieur Touré, vous avez la réponse à votre question.
Okay, c'est Africa 24 et ça a été sorti hier.
Bon, d'accord. Mais écoutez, c'est bien de nous apporter une information dans le JDA. C'est aussi votre contribution. Merci beaucoup à vous.
Bon, d'accord. Merci, Monsieur Francis Alaou.
Bonne journée. Merci.
Entre des groupes qui se sont créés, on peut très bien donner des prix. Mais vous savez, on peut donner un prix de littérature aussi à quelqu'un qui n'a jamais écrit.
Oh oui.
C'est arrivé.
Yves Ekwe Amaïzo, on peut faire donc le parallèle avec le Burkina Faso quand on parle de succès économique et de régime, disons, autocratique, plus ou moins autocratique, de démocratie palliative, comme vous disiez.
Alors, le cas de Burkina est très intéressant parce que le cas de Burkina est beaucoup plus simple, en tout cas par rapport au Rwanda qui est plutôt en accélération. Le cas de Burkina, aussi sur le plan historique, je les ai dit tout à l'heure, on avait donné quelques chiffres, entre 50 ans, hein. En gros, aussi, ils sont passés environ à 1,5 à peu près. Oui. Mais la réalité aujourd'hui, en 2010, c'est qu'ils sont en dessous même du Rwanda. Donc là encore, il y a un grand problème de création de richesse. Oui. Mais beaucoup plus profondément, c'est qu'il y a deux choses qui me tiennent à cœur et qu'on ne trouve pas au Burkina. Et bien que ce soit les pays des hommes intègres, dit-on. La vérité des urnes. Il faudrait regarder de près toutes les élections qui ont eu lieu dans ce pays. Quand est-ce que ce que a exprimé la population est vraiment ce qui est sorti des urnes? Avant, pendant et après. La deuxième chose qui se pose maintenant, aujourd'hui, et qui est un problème d'actualité, c'est la vérité des comptes. Je crois que c'est au mois de mai, les grands bailleurs de fonds qui appuient le Burkina depuis toujours font maintenant ce qu'ils appellent une sorte de revue de parcours et font un peu le point de la gouvernance économique et politique du pays. Et malheureusement, sur la plupart des critères économiques, ils ont plutôt été pas contents du tout et ont même mis en valeur la corruption et un certain nombre de ministres de justice ou autres qui ont été mentionnés. C'est qui a créé une colère terrible au niveau du Premier ministre Tidus Zongo, qui leur a dit: écoutez, si vous ne savez pas faire votre boulot, il faudrait plus ou moins penser à rentrer chez vous.
Ouais.
Alors, ce qu'il faut surtout regarder, comment se fait-il que des chiffres qui sont des éléments faciles à démontrer, ces chiffres ne viennent pas d'abord des ministères ou du gouvernement lui-même et soient publics? Parce qu'apparemment, l'une des causes de ce problème, c'est qu'on n'a pas voulu rendre ces chiffres publics. Ouais. Donc, je vous dis qu'il y a un problème de vérité des comptes dans la façon de gérer. Qu'on gère ou qu'on gère telle ou telle manière, il n'y a pas de problème, chacun peut se tromper. Par contre, qu'on empêche la vérité de ce qu'on a fait de sortir pour permettre une sanction électorale, alors là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Bien sûr. Voilà. Ah, il faut dire que Blaise Compaoré vient d'être investi par acclamation et à l'unanimité, je cite, candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est le CDP au pouvoir, pour la présidentielle qui aura lieu en novembre prochain. D'ailleurs, il est question de modifier la constitution pour prolonger donc le bail de M. Compaoré au sommet de l'État. Ça fait quand même 23 ans au pouvoir, il commence à battre des records, M. Compaoré.
L'article 37 dont vous parlez, ça pose problème de fond, puisque tous étaient engagés à un moment donné de ne pas justement le toucher et de faire qu'un bout d'un certain nombre de 2 ou 3 mandats, on puisse se retirer. Donc s'il se retire, je rappelle que Mo Ibrahim met 5 millions de dollars pour la personne qui se retire tout seul, et qu'en plus il redonne 5 millions pour faire des projets de développement. Donc, Donc ça fait 10 millions quand même, oui. Ce qui est beaucoup d'argent. Mais bon, si certains ne le souhaitent pas, comme a fait le président du Zimbabwe, il faudrait voir comment ça se passe au Burkina. Le vrai problème que pose l'ensemble des bailleurs de fonds, c'est qu'ils sont pris dans leur propre piège. Ils ont besoin de ces gens pour aller faire, soi-disant, des opérations de paix dans tel ou tel pays, quoique ce sont les pays eux-mêmes qui font l'effort d'avancer vers la paix. Et puis quand ça ne les arrange plus, ils se mettent à ce moment-là à dire un certain nombre de choses, ce qui bien sûr fâche les pays. La Chine, de ce point de vue, n'intervient absolument pas dans les affaires africaines, et du coup, ça se passe relativement bien de ce côté-là. Donc, c'est cette forme d'hypocrisie, je dirais, des pays occidentaux, de manière générale, qui rentre en contradiction aujourd'hui, et qui fait qu'en fait, la réalité, c'est que personne ne sait quel est le budget du Burkina aujourd'hui. Certains même parlent de budget Burkina qui ne serait pas sincère, etc. Ce qui pose problème, parce que les personnalités qui gèrent ce pays, en tout cas au niveau du ministère, Titus, c'est quelqu'un de très honorable, qu'il faut même valoriser. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens de faire sa politique comme il se doit? On peut s'interroger là-dessus.
La question est posée en tout cas. Yves Ekwe-Amaizo, économiste spécialisé en stratégie, conseil et négociation à l'ONU, président du groupe de réflexion Afrologie. Restez avec nous, nous allons écouter le répondeur du JDA, les avis, les commentaires, les réflexions des auditeurs sur l'actualité en général.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour, amis du JDA, c'est encore moi, Khalil, c'est à propos des élections qui se tiendront le 31 octobre. 2010, j'aimerais attirer l'attention des opposants ivoiriens et de la population de rester sereine. Choco, on aura aux élections. Donc si Laurent Gbagbo aujourd'hui avec son premier ministre Sorogui ont fixé une date aujourd'hui, je pense qu'ils ne vont pas tromper la population et puis le monde entier. Je pense que cette fois-ci, ça sera pour de bon. Les gens, ils auront leur pièce d'identité pour aller aux urnes, voilà. Merci à Midi JDA, bon, que les élections se passent dans la transparence. Même si aujourd'hui Laurent Gbagbo a été battu, là, qu'il aille très très loin, voilà, de la Côte d'Ivoire avec Blé Goudé. Merci. Au revoir.
Oui, bonjour JDA, je voulais intervenir à propos de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un monsieur qui vient de parler, qui je sais pas comment on l'appelle, ils n'ont qu'à dire ce qui est la vérité. C'est-à-dire, ils font des commentaires à distance. Il faut aller sur le terrain pour voir et faire les commentaires. Mais les gens parlent, oui, les élections n'auront pas lieu. Mais le président Gbagbo, il a dit que toutes les dates qu'il donnait, c'était pas lui qui donnait, c'est pas lui qui est le président de la CI. Il y a une organisation qui est là pour les élections. Ben, ceux-là, c'est eux qui donnent la date. Et lui, en tant que président, il signe le décret. Et c'est comme ça. Il a dit qu'il a été trompé. Parce que quand il donne la date, tout le matériel qui concerne l'élection, ce matériel n'est pas prêt. Alors, c'est pourquoi il n'y a pas eu des élections. Aujourd'hui, on a montré la liste. Oui, la liste. Alors, c'est normal que les élections aient lieu. Mais ils n'ont qu'à attendre. Parce que tous ceux qui sont en train d'intervenir, ce sont les gens qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, qui sont ailleurs. Mais ils n'ont qu'à s'occuper de leur pays. Ils n'ont qu'à rester dans la Côte d'Ivoire. De toute façon, si ça brûle, c'est nous les Ivoiriens qui brûlons, c'est pas eux. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Donc c'est ce que je voulais dire. Parce que le monsieur qui est en train de parler, il est journaliste, parce que c'est comme ça qu'il faut pour créer la guerre. Les Ivoiriens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont unanimes. C'est dédié à Alassane et Gbagbo qui ont décidé. Et Alassane, à la télévision, a dit que la date des élections, c'est en octobre. Et Gbagbo, lui, il a confirmé le 6. Donc dites au monsieur, s'il est là, dites-lui de lire avant de parler.
Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique.
Yves Ekwe-Amaizo, une conclusion, une réflexion générale donc sur ces deux pays, Rwanda, Burkina Faso. Alors, mirage économique et démocratie palliative, dites-vous.
Donc, il faut préciser ça. La deuxième chose sur la Côte d'Ivoire, ben, écoutez, il faut laisser le temps au temps. Si personne, je ne veux pas citer de nom de pays extérieurs à la Côte d'Ivoire, n'était pas intervenu il y a à peu près 10 ans dans cette histoire, il n'y aura certainement pas eu de guerre d'abord, et deuxièmement, les élections auraient eu lieu depuis très longtemps. Donc, je crois qu'il faut laisser le temps au temps, il faut désarmer par définition. Les dates ont été fixées en octobre, donc laisser le temps faire son travail, et je pense qu'il faut des élections qui ne soient pas des élections ou des démocraties palliatives. Sur ce plan-là, le dernier interlocuteur a parfaitement raison.
Conclusion sur le Rwanda, le Burkina Faso, s'il vous plaît.
Oui, alors sur le dernier, la conclusion, ben, elle est très simple, c'est qu'on a un point commun dans tous ces pays, en fait. Il y a une gouvernance qui est quand même malgré tout fondée sur beaucoup d'endettement et beaucoup de manque de transparence. Et donc je crois qu'il est nécessaire que les contre-pouvoirs, soit institutionnalisé. C'est ce que je dis dans mon dernier bouquin qui parle de la crise financière mondiale aux éditions Ménébuc. Il s'agit de contre-pouvoirs légitimes. Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre ou de déranger quoi que ce soit. Il s'agit de permettre des contrôles sur le plan de ce qui est les comptes. Il s'agit tout simplement de la transparence, de mettre sur le tapis des budgets qui ont été votés au Parlement et sur lesquels tout citoyen a le droit de réagir, y compris vous les journalistes. Merci. Et troisième point derrière tout ceci, on ne peut pas seulement s'endetter, on ne peut pas seulement courir après la croissance. L'Afrique a un autre concept du monde, de l'organisation qui est la prospérité.
Très bien Yves Ekwemaizo, nous avons également entendu votre recommandation sur la nécessité de l'impératif de l'intégration régionale. Merci à vous, vous êtes un homme politique togolais, économiste spécialisé en stratégie, conseil et négociation à l'ONU, expert indépendant, président du groupe de réflexion Afrologie. L'émission est terminée, l'émission a été préparée par Guy Kalenda, coordinateur d'antenne, réalisée avec talent par Maxime, monsieur Maxime. Rendez-vous demain, c'est maintenant Libreville, il est 14h. Les infos.